Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Dans un instant, on va parler d'art et de littérature, de cinéma et de peinture, d'Ava Gardner et de Goya, de Jacques Lacan et de Giuseppe Rotolo. On va parler du temps qui passe et des souvenirs qui nous échappent, de Rome dans les années 50 et de Paris, le Paris de Gustave Courbet, de l'origine et de la fin du monde, du FBI et de la mafia, de la fiction qui court après le réel, à moins que ce ne soit le contraire. Bref, ce matin, coup de projecteur sur un beau roman qui peut se lire comme un livre d'images. Oui, le livre d'images, pour reprendre le titre du dernier film de Jean-Luc Godard. Et ça tombe bien, mon invité, l'auteur de ce roman, aime Godard. D'ailleurs, dans son précédent livre, Sauf qui peut la révolution, il mettait en miroir la vie et l'œuvre de Jean-Luc Godard, avec celle de Danton, c'est-à-dire à 200 ans d'intervalle. Et il continue à jouer avec les temporalités, avec Les Nuits d'Ava, titre de son second roman publié chez Actes Sud. Mon invité ce matin est donc Thierry Froger.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Thierry Froger.
Bonjour.
Merci d'être venu jusqu'à chez nous puisque vous habitez à Nantes.
À côté de Nantes, c'est ça.
À Nantes, vous êtes enseignant en art plastique.
Tout à fait.
Et vous êtes depuis écrivain, on peut le dire, c'est votre second roman qui sort, Les Nuits d'Ava.
Effectivement, depuis 5 ans maintenant, l'écriture prend une part importante dans mon temps.
Voilà, pour notre grand plaisir d'ailleurs. Et dans Les Nuits d'Ava, il est question bien sûr d'Ava Gardner, qu'on retrouve à Rome en 1958, c'est ça?
En août 58, effectivement.
Elle tourne donc le dernier film qu'elle doit à la Metro Goldwyn Mayer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a qu'une seule envie, c'est tourner au plus vite ce film pour tourner définitivement la page qui la lie au studio. C'est une Ava Gardner qui noie dans l'alcool sa peur de vieillir. Et quand Ava Gardner ne joue pas le rôle de Maria Caetana, c'est-à-dire la duchesse d'Albe, qui est tout à la fois, on le sait, la mécène, le modèle et la maîtresse de Goya, elle sillonne Rome by night pour boire et danser jusqu'à épuisement. Et une nuit, dans la maison du chef opérateur du film, un grand chef opérateur qui est toujours vivant d'ailleurs, Giuseppe Rotolo, elle l'oblige à la prendre en photo dans une série de poses où elle rejoue les fameux nus de l'histoire de l'art. Alors que sont devenues ces photos? Et d'ailleurs, est-ce que cette scène a vraiment existé? Et pour répondre à cette question inaugurale, des personnages de fiction vont mener l'enquête dans un récit enchevêtré. Enchevêtré est tout à la fois fluide, puisque vous réussissez à multiplier les voix et que d'une image à l'autre, d'une représentation à l'autre, on traverse les époques, on remonte le temps jusqu'à l'origine du monde, ou de sa représentation.
Tout à fait. Effectivement, le point de départ se situe en août 1958, et Ava Gardner y tourne un film assez oubliable, je crois, de Henri Coster, qui s'appelle La Maja Desnuda. C'est un peu le point de départ du roman. Je m'étais demandé si, en voyant ce film, si on allait découvrir effectivement Ava Gardner prenant la pose du fameux tableau. Et évidemment, non. Ce qui m'avait un peu déçu, puis en continuant mes recherches...
Et en même temps, c'est un film américain. Hein.
C'est un film américain, c'est vrai. À cette époque où les studios, effectivement, délocalisent en Europe, et à Rome en particulier, beaucoup de leurs tournages. Je suis tombé un jour par hasard sur des articles, je crois, où j'ai appris, à ma grande surprise, que le personnage d'Ava Gardner avait inspiré Fellini, était le modèle dans le film de Fellini qui va tourner quelques années plus tard à Dolce Vita. Fellini s'est inspiré d'Ava Gardner pour le personnage d'Anita Edberg. Et c'est cet été-là, ces nuits d'août 58, que les paparazzi sont nés, le mot en tout cas, la profession quasiment, et c'était Ava Gardner qui était au cœur de cette nouvelle profession. Et donc le lien entre ces images fantômes d'Ava Gardner qui aurait posé nu en reprenant les tableaux de l'histoire de l'art, et cette nouvelle profession de l'image me semblait intéressant. Et donc c'était un peu le point de départ au tout début qui a présidé à l'écriture de ce roman.
Ces photos-là que vos personnages de fiction, là on sait que c'est des personnages de fiction, vont essayer de retrouver, elles ont existé, cette séance photo dans l'appartement du chef opérateur, alors que sa femme est en train de dormir en haut et que Ava Gardner, il est tout à la fois très admiratif, très flatté d'être avec cette grande star, mais il a quand même pour but d'essayer de la garder fraîche pour le tournage du lendemain.
C'est ça, en fait, il avait eu pour mission, une mission confiée par le réalisateur, de chaperonner un peu Ava Gardner. C'était l'avant-veille du dernier jour de tournage. Et donc, le réalisateur souhaitait qu'Ava Gardner ait un visage à peu près humain le matin et qu'elle ne suive pas la pente naturelle de ses excès. Et donc, Rotunno, qui lui, au contraire, est quelqu'un d'extrêmement sérieux, pas fêtard pour un sou, va l'accompagner dans cette nuit. Et cette nuit va peu à peu déraper. Et il va très vite comprendre qu'il est extrêmement compliqué de s'opposer au désir d'Ava Gardner. Et donc, ils vont commencer par rejouer la pose de ce tableau, la Maja Desnuda de Goya. Et puis, de fil en aiguille, elle va demander, elle qui ne connaît rien en histoire de l'art, elle va demander à Rotunno s'il connaît d'autres nus de la peinture. Et de fil en aiguille, elle va reprendre la pose de la Vénus au miroir de Velázquez. Et puis, la Vénus d'Urbino de Titien. Jusqu'à un moment où elle se rappelle d'un tableau scandaleux qu'elle a vu dans un livre érotique allemand des années 30, qui est L'origine du monde de Courbet. Et là, Rotunno commence à se dire que la nuit s'annonce périlleuse.
C'est la question que je m'étais interdit de vous poser. Est-ce que cette séance a eu lieu ou est-ce que ça relève de la fiction? Et pourtant, vous jouez avec ça parce qu'il y a suffisamment d'éléments qui nous prennent à témoin pour dire que cette séance a existé.
Je crois que le roman pose cette question et toutes les hypothèses sont possibles. C'est-à-dire que ces photographies qui innervent l'ensemble du récit, qui sont l'objet de la quête du narrateur, Jacques Pierre, une quête qui va peu à peu aussi devenir une forme d'enquête sur sa propre enfance et sur sa propre jeunesse. Et je crois qu'on ne sait, jusqu'à la fin du roman, toutes les hypothèses sont possibles sur la réalité ou non de ces photographies qui peuvent être très bien nées également d'un songe ou de la rêverie du narrateur.
Mais cet article dans Libération qui rappelle, est-ce que c'est un vrai article ou pas?
C'est un article qui s'appelle « La comtesse au cul nu », qui aurait été publié en juin 1995, au moment de l'entrée dans les collections du musée d'Orsay de l'Origine du Monde. Cet article était une espèce d'entrefilet à côté d'un article qui, lui, a réellement existé, donc je réponds en partie à votre question, qui s'appelait « L'outrage fait à Courbet ».
Il n'y a pas seulement cette histoire, puisque chaque image renvoie à une histoire réelle ou fictive, ou très généralement et très souvent un mélange des deux. Par exemple, on se retrouve tout de suite dans le Paris de Gustave Courbet, à partir bien sûr de l'Origine du Monde.
Tout à fait. Le fil principal du récit est donc le destin et le cheminement de ces photographies qui vont passer de main en main, on va le découvrir, et aussi le moment de la commande qui est passé à Courbet, donc en 1866, un peu moins d'un siècle avant les fameuses photographies d'Ava Gardner. Et donc là, on a beaucoup écrit sur ce tableau de Courbet. Il y a plusieurs hypothèses qui circulent. Et moi, j'ai croisé plusieurs hypothèses qui ont été émises par des historiens d'art sur l'identité du modèle de la femme qui aurait posé pour l'Origine du Monde et comment. Et donc l'hypothèse que je développe serait qu'il s'agit d'une courtisane de l'époque qui s'appelle Jeanne de Tourbet, mais qui n'aurait pas posé directement, mais qui aurait d'abord posé pour un photographe. Ça me semble tout à fait plausible, et ça m'intéressait dans le sens où le roman met en tension, ou du moins essaye de mettre en regard, la peinture d'un côté et la photographie de l'autre.
Donc un roman bien documenté, qui refuse justement la fatalité du documentaire.
Tout à fait. Alors, pour ce roman, comme pour le précédent, sauf qu'il peut la Révolution, il y a effectivement une part documentaire, mais qui n'est pas réellement scientifique. J'ai lu effectivement des choses sur Ava Gardner, mais il ne m'intéressait pas du tout.
Et sur Courbet. Et sur l'histoire de ce tableau qu'on va retrouver dans le cabinet de Jacques Lacan.
Voilà, bon, ça, c'est une histoire très connue.
Elle est connue, oui.
Ce tableau, il y a un destin assez fabuleux. Et d'une certaine manière, les photographies d'Ava Gardner nues reproduisent par leur cheminement erratique le destin de l'Origine du Monde, qui effectivement a disparu pendant plusieurs décennies, a été aux mains des nazis, des russes, avant de se retrouver chez Lacan, puis finalement sur les cimaises du musée d'Orsay. Oui, donc en général, je procède comme ça. Il y a un travail documentaire important au départ, mais que je laisse de côté ensuite pendant l'écriture du roman, sauf pour vérifier des notes, un détail, un nom, une date, un lieu, ce qui me permet une certaine liberté. Et il m'arrive parfois, après coup, quand on me pose des questions, on me demande si ceci est vrai ou faux, de ne plus savoir exactement à quel moment la documentation a constitué une sorte de base plastique, un peu comme une boule d'argile qui a été modelée, qui est malléable et qui va évoluer aussi au fur et à mesure de la logique propre du texte et de l'écriture.
Est-ce qu'il y a une idée, une philosophie, une envie que vous voulez transmettre à travers vos livres, vos deux fictions, par exemple dans Sauf qui peut la révolution? Est-ce qu'on peut dire que ce qui vous intéressait, c'était de voir comment vieillissaient les révolutionnaires, et que là, avec ce second roman, toujours chez Actes Sud, Les Nuits d'Ava, c'est comment l'art, ou plus exactement notre perception de l'art, comment évolue-t-elle avec le temps?
C'est tout à fait juste. Il y a effectivement cette dimension du temps et de la mémoire qui est présente dans les deux romans, et ce rapport aux images. En fait, j'ai une formation de plasticien, j'ai d'abord produit des images. Et effectivement, depuis que je suis engagé dans un travail d'écriture, d'une certaine manière, mes textes sont comme des légendes au sens presque godardien, c'est-à-dire des phrases ou des mots que l'on pose à côté ou dans la marge des images.
Et donc, c'est ça qui vous a donné envie d'écrire des romans, ou d'écrire tout simplement cette manière d'essayer de trouver les mots qui pourraient accompagner les photos, les représentations,
oui,
les images.
Oui, qui accompagnent des images fantômes, en fait. Ce qui ne m'avait pas frappé au départ, puisque dans le premier roman, il est question d'un film de Godard, d'un film que Godard ne fera jamais, un film sur la Révolution française. Et ici, il s'agit de photographies qui sont perdues et qui sont aussi des photographies latentes et fantômes.
Ce qui laisse la place à l'imaginaire.
Qui laisse la place à l'imaginaire, effectivement, dans comme si le texte était ce qui permet de passer des images à l'imaginaire, puisque les images, on ne les voit pas. On ne peut que les fantasmer, les projeter.
Elles vous parlent, les images, à vous, Thierry Froger, vous qui êtes artiste plasticien?
Oui, comme je le disais à l'instant, après avoir beaucoup vu des images, en avoir produit quelques-unes, quand peu à peu mon travail s'est concentré sur l'écriture, je ne pouvais pas d'un coup me débarrasser de ces années de fréquentation des images. Donc il est indéniable que les images sont au cœur de mes préoccupations et de mes questionnements.
Pour présenter ce roman, Les Nuits d'Ava, au libraire, au lieu d'aller, comme tous les écrivains, rencontrer les libraires et en parler, vous avez décidé de faire un film, d'ailleurs un court film. On va écouter un petit extrait à la manière de, là les auditeurs vont trouver tout de suite. C'était une manière à vous de revenir encore aux images?
Oui, on m'avait demandé effectivement de faire une petite vidéo de présentation du roman pour les représentants qui vont après les présenter aux différents libraires. Et je me voyais assez mal me filmer tout seul chez moi, dans mon jardin ou dans ma bibliothèque. Et j'ai eu l'idée de faire ce petit film, une espèce de faux générique, qui permettait de faire le lien entre le premier roman et le second.
Et qui surtout permet à ce livre qui part à partir d'images, de peintures, à l'écrit, de revenir aux représentations.
Et là, effectivement, on retrouve des images à la fois d'Ava Gardner, des images de films de Godard, et avec non pas des extraits du livre, mais un petit texte qui énumère tout ce qu'on va pouvoir trouver dans ce roman.
C'est d'après le réel et la fiction. Il y a Jacques Pierre et Ava Gardner. Il y a aussi un chef opérateur italien, puis Ernest Hemingway, Rose, Fidel Castro, Frank Sinatra, Monsieur Dostel, le photographe. Il y a Courbet et Jeanne de Tourbet, Federico Fellini, Ariane, le FBI et la mafia. Il y a des tueurs. Il y a des baisers, comme au cinéma. Il y a du cinéma, avec des femmes nues. Comme dans les peintures. Il y a des tableaux volés et des photographies perdues, des ateliers clandestins et des studios dévastés, des héritages dilapidés. Il y a des apparitions, des révélations, des annonciations, des variations et des légendes.
Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs.
Les Nuits d'Ava racontent l'histoire de ce monde. ce regard et de ces désirs qui cherchent et qui craignent. L'origine et la fin du monde. Il y a des rires, de l'alcool, des colères, des fuites. Il y a des chansons et la mélancolie d'Ava Gardner. Les Nuits d'Ava est un roman publié par les éditions Actes Sud, à Arles. Il y a beaucoup d'histoires, il y a des images, mais il n'y a pas Jean-Luc Godard.
Listen, sister, I love my Mr. Man, and I can't tell you why. There ain't no reason for me to love that man. It must be something that the angels done play.
On ne sait pas si c'est la voix d'Ava Gardner ou pas, Thierry Froger. C'est attribué à Ava Gardner, mais quand elle se faisait doubler, vous le saviez très bien, quand elle se faisait doubler dans les comédies musicales, il reste encore de la place pour l'imaginaire, pour la fiction, pour la confusion entre le réel et ce qui n'a jamais existé. C'est un peu l'art hein, qui suscite aussi ce trempe-l'œil. Mais c'est...
Oui.
Mais ça marche à l'oreille aussi.
Oui, mais d'ailleurs, quand des gens croisaient Ava Gardner à Madrid, où elle a vécu pendant une quinzaine d'années, jusqu'à la fin des années 60, beaucoup lui demandaient si elle était Ava Gardner. Elle disait non, simplement une femme qui lui ressemble. Et comme beaucoup d'autres vedettes du cinéma, dont le succès était basé sur l'apparence, Ava Gardner, au fur et à mesure qu'elle vieillissait, ne cesse d'interroger sa propre image. Et les dégradations, les bouffissures, les rides, une marque à la pommette suite à une malheureuse chute de cheval. Et donc son drame, c'est aussi ce dialogue avec sa propre image.
Une image qui évolue avec... le temps, s'il fallait questionner un peu votre regard, parce que on vient d'écouter un extrait de cette vidéo que vous avez réalisée pour présenter votre livre Les Nuits d'Ava, Thierry Froger. Je me suis rendu compte que ça passait très bien, aussi à la radio, c'est-à-dire ça passe très bien aussi sans les images. C'est ce qui se rapproche d'ailleurs du roman, hein, puisqu'on n'a pas d'images, on n'a que des images qui défilent dans notre tête, parce que bien sûr vous parlez de films qu'on a vus, de comédiens, de comédiennes, de chanteurs qu'on connaît, ce sont des icônes, et puis des grands tableaux de l'art. Tout cela est restitué dans notre cerveau, mais se pose la question, comment notre perception, comment notre regard a-t-il évolué avec le temps? Vous, par exemple, Thierry Froger, est-ce que vous avez un regard qui change au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, d'un tableau que vous avez aimé, d'un film que vous avez aimé, d'une photo qui vous aurait marqué quand vous étiez plus jeune?
Ces images ont une capacité à infuser, à peut-être disparaître à quelques moments, avant de ressurgir un peu plus tard, sans qu'on s'y attende forcément.
Mais qui raconte la même histoire, qui provoque les mêmes émotions?
Pas forcément, mais ce sont les transports des images qui m'intéressent beaucoup. Comment les images circulent à travers différentes temporalités, à travers différentes épaisseurs. Je mets assez le palimpseste, oui, avec plusieurs couches comme ceci. Et c'est vrai que mes romans sont aussi écrits et construits comme différentes couches successives qui se superposent et qui s'effacent les unes les autres.
Et qui racontent à peu près peut-être le même questionnement.
Le même questionnement, je ne sais pas. Effectivement, dans Les Nuits d'Ava, le narrateur Jacques Pierre donc décide d'aller à la recherche de ces images d'Ava Gardner, profitant d'un héritage qu'il souhaite dilapider dignement, en poursuivant cette forme de chimère que sont ces images, qui vont l'emmener et qui vont le faire croiser des grands de ce monde et souvent aussi l'arrière-boutique du pouvoir et du cinéma qui sont guère reluisantes. Et peu à peu, il se rend compte que finalement cette quête de l'origine du monde est peut-être moins une quête des photographies d'Ava Gardner qu'une quête de ses propres origines. Et donc il va peu à peu se remémorer son propre rapport à la photographie, son premier appareil photo qu'il a eu dans les années 60, le lien avec un photographe, Monsieur Dostel, qui lui a enseigné les rudiments du tirage photographique, ainsi que donc son enfance, sa jeunesse amoureuse et militante. Et dans le roman, il y a plusieurs fils comme ça qui s'entrelacent, et finalement la quête de sa propre histoire prend autant de place que la quête des images d'Ava Gardner.
Oui, puisqu'à la fin on le retrouve, il est père.
Oui, il est père. Donc en fait, Jacques Pierre était un personnage fictif, ça je peux le dire, totalement fictif, qui était déjà présent dans le premier roman, sauf qu'il peut, puisqu'il s'agit d'un historien spécialiste de la Révolution française que Godard aurait rencontré au début des années 70 dans un de ces groupuscules maoïstes qui ont poussé ici ou là après 68. Et Godard, donc, pour faire ce film sur la Révolution, renoue avec cette ancienne connaissance de sa jeunesse pour avoir une forme de caution historique sur la Révolution française. Et là, Godard, le retrouvant, tombe amoureux de la fille de Jacques-Pierre, le narrateur, qui s'appelle Rose, puisque Godard, parmi ses traits saillants, a souvent eu la distraction de tomber amoureux de jeunes filles de 20 ans. Et c'était pas prévu du tout au départ. Et quand j'ai commencé à écrire ce deuxième roman, donc j'ai d'abord travaillé sur l'histoire des photographies, sur l'origine du monde Courbet.
Vous avez travaillé sur ça avant d'arriver à Ava Gardner ou...
Non, c'est l'inverse. J'ai d'abord travaillé sur Ava Gardner. J'avais fait une espèce de petit scénario découpage de 70 courts chapitres où il y avait donc l'histoire des photographies, la mafia, etc. Et puis donc de temps en temps Courbet et l'origine du monde. Et j'ai senti là que j'avais besoin d'avoir une seule voix, un seul narrateur qui porte l'ensemble des récits. Autant dans Sauf qui peut la Révolution, on a un montage alterné, cut, où on passe de trois fils narratifs clairement identifiés. Autant là, il y a une seule voix qui va lier et fondre les différents récits qui sont de l'ordre du souvenir, de la rêverie et de l'enquête. Et donc, c'est assez tardivement finalement que Jacques Pierre, personnage du premier roman, a surgi pour finalement devenir le narrateur des Nuits d'Ava.
Et pourquoi avez-vous choisi Ava Gardner ? Parce que sa vie est romanesque, parce que tout autour, vous aurez pu trouver d'autres visages moins connus qu'Ava Gardner. Mais est-ce que le côté iconique d'Ava Gardner était important dans ce dispositif littéraire ?
Alors la dimension iconique était importante. Elle est connue, vous dites qu'elle est connue, je ne sais pas s'il est si connue que ça par des générations plus jeunes. Elle n'a pas le plus jeune que nous, je veux dire. Mais je pense que des jeunes gens de 20 ans, 30 ans la connaissent pas forcément. Ouais. Elle n'a pas accédé au statut de mythe comme Marilyn Monroe, hein, alors qu'elles sont à peu près contemporaines.
Marilyn Monroe, une multitude de romans, d'enquêtes, de fictions.
Voilà, Ava Gardner, à ma connaissance, pas ou très peu. Il y a eu quelques biographies, mais pas tant que ça non plus. Et ce qui m'intéressait chez Ava Gardner, donc il y a tout d'abord le point que j'évoquais tout à l'heure, la coïncidence de l'été 58, elle ferait ces images d'un nu de la peinture espagnole, et en même temps, elle est poursuivie par des photographes. Donc, tout ça me semblait assez intéressant. Et puis, Ava Gardner, c'est une espèce d'impureté au sein d'Hollywood. Et si on regarde bien sa filmographie, Hollywood n'a jamais trop su comment gérer, elle était assez ingérable, et quel rôle elle pouvait endosser. Et si on regarde bien quasiment tous ses films, sauf une exception, je crois, elle a toujours du sang mêlé. Elle est soit d'origine française, indienne, espagnole, et même dans un de ses films, noir. Elle est négrifiée d'une certaine manière par Hollywood. Donc c'est Ava Gardner, cette espèce de beauté animale, il y avait ce slogan un peu débile de la MGM, le plus bel animal du monde, un peu indomptable, qui porte avec elle une forme d'exotisme et aussi de métissage, d'irréductibilité qu'Hollywood n'arrive pas à digérer.
Les Nuits d'Ava, édité par Actes Sud, c'est votre second roman, Thierry Froger. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous en parler.
Merci à vous.
Fish gotta swim, birds gotta fly. I gotta love one man till I die. Can't help loving that man of mine.
Le réveil culturel, c'est tôt le matin à la radio, Les lundis sont consacrés à la littérature, mais on peut écouter ou réécouter cette émission quand on veut, en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast disponible en quelques clics à partir du site franceculture.fr. Prise de son, Fabien Capel. Coordination, Corinne Amar. Le Réveil culturel est une émission réalisée par Vincent Labouchard.
When he goes away, that's a rainy day, but when he comes back, that day is fine.